Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous. Ambient Memory, l'interview avec ce soir un nouvel artiste. Nous accueillons Philippe Hall. Un artiste aux multiples facettes, un artiste mêlant musique organique, collage sonore, atmosphère dense et art. Philippe est un artiste prolifique, il a produit de nombreux albums et pièces sonores à base de collage et d'autres éléments de field recording. Il nous parle de tout cela ce soir. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Philippe.
Très heureux de t'accueillir sur les ondes de Radio Graphite.
Voilà. Très heureux également. Oui. Très heureux.
Eh bien, écoute, le plaisir est partagé, très honoré également. Eh bien, voilà, on va passer une petite heure ensemble pour te découvrir, redécouvrir si voilà, certains auditeurs te connaissent peut-être déjà, je l'espère, qu'on puisse parler de ton travail sonore. Aussi un petit peu de ton art, parce que tu fais aussi du dessin, donc on pourra aussi en parler, bien sûr, parce que les deux sont en parfaite corrélation. Et voilà, ben, que tu puisses effectivement nous expliquer un petit peu tout ton parcours artistique, que ce soit bien sûr dans le dessin, dans la musique, et bien sûr les deux quand ils sont ensemble. Mais est-ce que tu peux te présenter, peut-être en quelques mots ?
Je m'appelle Philippe Hall, et donc je fais de la musique depuis plus d'une dizaine d'années, mais surtout je suis plutôt peintre à la base en fait. J'ai fait une école d'art et j'ai toujours peint depuis que je suis sorti de cette école. Donc j'ai une pratique plus ou moins régulière en fonction du boulot. Et ça s'est agrémenté au fur et à mesure d'installations, de sons et puis d'images vidéo en fait. Et tout ça très très proche en fait, même si ce n'est pas du tout les mêmes enjeux parfois. Et dans certaines expositions, je montre ce travail en même temps, quoi. Mais j'ai maintenant depuis 2012 facilement une pratique de musique en fait, enfin de son en fait, régulière et autonome en fait, qui n'est pas forcément liée directement à des peintures ou des installations en fait.
D'accord. Est-ce que tu es aussi musicien, enfin, ou la musique est arrivée après, ou tu joues d'un instrument ?
Non, je suis pas du tout musicien. Je suis un musicien plasticien, enfin, je suis plutôt un plasticien du son. Non, j'ai pas du tout fait de musique. J'ai pas de connaissances particulières en musique, si ce n'est que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, mais j'ai jamais appris à jouer d'un instrument. En fait, c'est arrivé un peu par hasard au fur et à mesure de ma pratique picturale et des installations. En fait, j'ai incorporé des collages sonores et puis au bout d'un moment, par les rencontres. Dans ma vie familiale, j'ai eu des enfants musiciens, donc il y avait des instruments qui étaient à la maison. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, tout doucement. Mais non, je ne suis pas musicien. Et puis, parfois, j'ai même du mal à dire que ma musique, enfin, que ce que je fais en musique, c'est de la musique, parce que pour moi, c'est plutôt du son, en fait. Si on écoute, en fait, il n'y a pas beaucoup de mélodies, il y a très peu de rythme. Après, au gré des collaborations, des rencontres ou parfois de certains samples, mais j'utilise quasiment plus de samples, il peut y avoir de la mélodie, mais c'est un travail de couche, de strates sonores, on va dire, et le son est quelque part soit comme une masse, soit comme une peinture, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui s'apparente à ça, en fait, même si les effets ne sont pas les mêmes, les intentions ne sont pas forcément les mêmes du tout, mais donc du coup, non, je suis pas vraiment musicien en fait.
Tu t'inspires un petit peu des bruits environnementaux par le biais du field recording, oui. Ce qu'on disait, et puis peut-être d'autres manières aussi, des morceaux, tu arrives à prendre des séquences peut-être, je ne sais pas comment tu travailles du coup.
Alors en fait, oui, la base de mes sons sont plutôt des field recording, oui, que j'enregistre énormément, alors avec un instrument très sommaire. Hein, j'ai un bon micro, mais il est trop lourd, donc j'utilise beaucoup mon téléphone portable. Donc j'enregistre les sons autour de chez moi, autour de l'atelier, parce que parfois c'est lié. Et après, j'enregistre des sons parfois dans la rue, de certaines choses que j'entends qui sont plus ou moins industrielles, des bruits mécaniques, des choses comme ça. J'enregistre des sons quand je visite des expositions. Alors ça arrive que ce soit des bandes sonores, mais ça arrive aussi sur les gens qui parlent, en fait, les gens qui marchent dans des espaces. Des choses comme ça, et puis j'ai eu une guitare autour de moi, j'ai un piano droit à la maison encore, un synthé. Là, j'ai racheté un synthé, un Tutsi, pour avoir quelques effets comme ça. Mais voilà, c'est la grosse base est plutôt de son enregistré autour de moi, en fait. Et plutôt field recording, qu'ensuite je retouche en fait énormément, que je nettoie avec Audacity, que je retravaille avec Ableton Live et plein d'effets en fait, et plein de couches, plein de strates.
Et du coup, la musique inspire le dessin, ou est-ce que le dessin peut inspirer la musique ?
Alors en fait, le besoin de musique est apparu au travers de ma pratique de peinture et surtout d'installation en fait. Donc je fais de la peinture depuis longtemps, mais j'arrive pas. Souvent en fait, j'arrive pas à montrer une seule chose toute seule. En fait, j'ai du mal à montrer un tableau sur un mur tout seul. En fait, pour moi, la peinture c'est plus que ça, c'est un espace complet en fait. Donc du coup, je peins sur des papiers, sur des toiles, sur des toiles avec des châssis, des toiles sans châssis, des toiles libres. J'incorpore beaucoup d'objets autour de moi, qui venaient autour de moi, des bambous, des morceaux de bois, des feuilles et des choses récupérées dans la maison de-ci, de-là. Et j'ai commencé à faire des installations en fait pour essayer de retrouver une espèce d'atmosphère liée à l'atelier. C'est-à-dire que quand je peins, il y a beaucoup de choses en cours en fait. Je fais jamais une seule chose en même temps, ce qui est complètement normal et logique. Je pense que je ne suis pas seul à le faire, mais comme ça, a du mal à sécher, c'est long, c'est des grands formats, c'est des couches et des couches. Donc du coup, il y a plein de choses étalées, plein de choses suspendues, et j'ai eu envie de créer des installations où le spectateur pouvait entrer dans la peinture en fait, comme moi je l'étais dans l'atelier quelque part, même si c'est pas du tout les mêmes sensations. Et donc le son est arrivé comme ça, parce que j'ai toujours écouté beaucoup de musique dans l'atelier ou dans tous les ateliers que j'ai eus. Parce que c'est une façon de se déconnecter en fait du réel, soit de la musique rock très puissante, soit de la musique électronique très répétitive, de façon à ce que ça crée une espèce de séparation entre, enfin, ça permet de rentrer plus vite dans la matière, dans la peinture en soi. Et du coup, bah voilà, une fois que j'avais réussi à retrouver des espaces recréés comme ça d'installation, avec un autre propos, puisque les peintures étaient finies et l'installation proposait un objet fini, mais je me suis dit, il faut que je ramène de la musique. Donc j'ai commencé à faire des collages sonores à partir de samples de musique que j'écoutais avec Audacity. J'ai fait des petits montages et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à utiliser des instruments qui étaient à la maison de manière un peu simple, en fait, en tapant sur des touches de piano, en grattant des cordes. Mais ce n'était pas pour moi suffisant, parce qu'au bout d'un moment, c'est rigolo, mais ça ne produit pas grand-chose. Il y a une insatisfaction. Je n'arrive pas à jouer au piano, au piano bien, parce que mes doigts ne bougent pas régulièrement sur les touches. J'appuie deux fois sur une touche. Donc, du coup, j'ai commencé à enregistrer des sons autour de chez moi. Et je les ai montés, puis ça m'a plu. Et en fait, au fur et à mesure des discussions et des rencontres que j'ai pu avoir, je me suis débarrassé en fait des samples, parce qu'après il y a des droits d'auteur, etc. Parfois c'était trop reconnaissable, et puis ça correspondait à un moment, quoi. Je me suis rendu compte en découvrant certains logiciels qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait faire du son autrement.
Thank you.
aussi pu faire des collaborations. Enfin, tu ne travailles pas forcément tout seul pour faire des morceaux, mais tu as eu de nombreuses collaborations. Donc, comme ça, à la volée, Antonella Hayes, Pancelluzzi, je suis en train d'écorcher son nom. Pareil, est-ce que c'était une demande ou tu avais un peu suivi son travail et du coup, une collaboration s'est faite? Comment ça s'est passé, en fait?
Alors, elles sont variables. Alors, je collabore pas mal, en fait. J'aime beaucoup cette idée-là puisque ça me permet de sortir de ce que je fais. J'ai quand même une pratique, alors que ce soit en peinture ou en musique, hein, en son assez répétitive en fait. Je recycle souvent beaucoup de sons. Il y a des sons sur lesquels j'accroche, donc je les réutilise beaucoup. Des fois, ça s'entend trop, même parfois, moi, j'arrive plus à faire la différence dans mes maquettes là où j'en suis. Et donc, du coup, quasiment dès le début, en fait, j'ai rencontré d'autres musiciens, musiciennes dans des niches sur Facebook, en fait. Et la rencontre avec Antonella s'est faite comme ça. Elle m'a sollicité pour un morceau par rapport à comment j'ai parlé le nom sur Facebook, elle a un groupe par rapport à un philosophe et elle m'a demandé de faire un morceau, c'est venu comme ça. Elle avait dû écouter mon travail autre part et du coup on a un petit peu discuté sur Messenger et la rencontre s'est faite comme ça et puis on s'est dit à un moment donné de faire, peut-être à son initiative je crois, de faire des morceaux ensemble quoi. Et la plupart du temps c'est comme ça en fait. Soit je réponds à des compilations, des sollicitations que je vois passer par des posts sur Facebook, soit on vient me chercher quoi. Quelque part je me souviens que Arnaud Châtelard, ça s'est passé comme ça en fait. À un moment donné il m'avait dit est-ce que ça t'intéresserait qu'on travaille, ça s'est pas fait tout de suite et puis à un moment donné ça s'est fait quoi. Et à force de oui ça c'est vraiment, enfin moi je suis le réseau principal que j'utilise c'est Facebook et dedans c'est une vraie niche à musiciens et pour moi c'est là où j'ai établi la plupart des contacts avec les gens avec qui j'ai collaboré et avec les labels avec qui j'ai pu sortir des choses quoi en fait parce qu'autrement dans mon entourage immédiat voilà j'ai pas de ce genre de contact là à part Romain à un moment donné Romain Breton que j'ai côtoyé assez longtemps et qui m'a relancé des fois mais voilà la plupart des gens je les connais pas physiquement en fait je les connais que par relation de réseaux sociaux, en fait.
Oui, tout à fait, des ramifications, mais un petit peu aussi comme Grosso Gadgetto. Enfin, y a pas mal d'artistes aussi avec qui tu as pu collaborer. Qui d'autres Boban Rijevic, je ne sais pas si ça se dit comme ça aussi. Donc tout ça, c'est des collaborations par le biais, pareil, des réseaux sociaux et puis des travaux que vous avez pu écouter l'un l'autre pour une collaboration éventuelle.
Oui. Oui, c'est ça, oui. Que ce soit Boban, je me souviens, c'est lui qui m'avait lancé une proposition, quoi, en fait. Christian, là, Grosso Gadgetto, c'est exactement pareil, m'avait demandé si ça m'intéressait, parce qu'on était dans les mêmes groupes de discussion ou dans les mêmes choses à voir sur Facebook. On connaissait les travaux de l'un de l'autre. Moi, par exemple, Christian, jamais j'aurais pensé travailler un jour avec lui. Je connaissais un petit peu son travail, j'aimais bien, mais voilà, pour moi, c'était inaccessible, quoi, en fait. J'avais l'impression qu'on était dans une autre sphère, etc. Et après, moi, j'accepte parce que j'ai l'impression parfois qu'il y a des musiciens qui sont très loin de moi parce qu'en fait, j'arrive pas à faire ce qu'ils savent faire, qu'en fait, ça m'intrigue. Et puis, du coup, en collaborant, ça me fait voir un peu différemment ce que je fais, puis peut-être rentrer dans d'autres univers, d'autres atmosphères. Je pense par exemple, Jordan Presto. Il a quelques temps, il y a au moins 2 ans maintenant, il avait fait une commande, entre guillemets, donc il voulait sortir quelque chose avec des contraintes musicales d'harmonie, enfin de d'annotation au niveau piano. Moi, je ne savais pas faire, donc je me suis un peu renseigné, puis j'ai produit 2-3 morceaux, en fait. Et ça, voilà, c'est le fait d'être un peu challengé parfois, il y a un petit peu ça, c'est vraiment d'être stimulé, en fait, parce que je fais de la musique, j'essaie d'en faire le plus régulièrement possible, mais avec le boulot, ce n'est pas toujours simple. Et puis, du coup, voilà, le fait d'être engagé avec quelqu'un d'autre à un moment donné, ça permet, ça met un peu la pression. Et du coup, on a positivement pour créer quelque chose et puis sortir du son que j'ai l'habitude de faire. Parce que des fois, j'ai l'impression de m'enfermer parce que les fils de recording, c'est souvent les mêmes. J'ai l'impression que c'est les mêmes qu'il y a des tics, en fait, dans mon travail. Comme il y a des tics dans ma peinture, mais dans ma peinture, je me suis plus habitué, en fait. Et là, dans le son, j'ai un peu plus. Parfois, je me dis, il y a trop d'oiseaux, mais en même temps, il y a beaucoup de sons d'oiseaux dans mes morceaux parce qu'en fait, je vis dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres, donc il y a beaucoup d'oiseaux. Donc forcément, si j'enregistre autour de la maison, il y aura beaucoup d'oiseaux tout le temps, quoi. Et du coup, la collaboration me permet d'essayer de voir ça un petit peu différemment, de les traiter différemment, voire de les faire disparaître, quoi.
Bien sûr, puis après, je ne sais pas comment travailler, si chacun envoie des plages sonores différentes, après que tu puisses agrémenter, que tu renvoies, voilà, ton duo réagrémente encore, c'est peut-être une construction qui se fait comme ça, je ne sais pas après comment travailler,
oui, alors c'est fonction. Ouais. Alors c'est variable en fonction des personnes, en fait, Antonella... par exemple, pour Antonella, parfois on voit les voix avant, parfois j'envoie les débuts de morceaux sur lesquels elle va poser sa voix, puis après on retravaille un petit peu. Christian, je me souviens que je lui ai envoyé des pistes, c'est moi qui lui avais envoyé des pistes, et puis après il les a retravaillées. Avec Arnaud, c'est un peu différent, c'est soit l'un soit l'autre qui commence, et puis après, dans certains cas, il y a même des morceaux qui mettent longtemps à émerger, parce qu'en fait, il y a des échanges réguliers, quoi. C'est arrivé dans certaines collaborations. Oui, ça prend beaucoup de temps. J'ai sorti un truc avec... Il s'appelle Anne Hill. C'est un musicien néerlandais, je crois. Il fait... sur Facebook, il a une page assez active où il édite régulièrement des duos, des trios. Donc, il y a des gens qui disent « Ouais, je veux participer. » Puis, c'est lui qui assemble en duo, en trio des personnes en fonction de ce qui lui semble correspondre, j'imagine. Et j'ai sorti donc quelque chose, je suis en train d'essayer de le retrouver, avec deux Américains, et on a fait quasiment pendant 6-7 mois, on a dû faire plein de morceaux, en fait, en aller-retour, en correspondance, en fait, chacun envoyait des bouts de fichiers, il y en a un qui les assemblait, l'autre les rassemblait d'une autre manière, et rejouait dessus, etc. Donc ça peut être très long comme ça, en termes d'échange, c'est très variable, en fait. Avec Boban, on a fait des échanges comme ça 2 ou 3 fois, en fait. Donc, en fait, ça change beaucoup les façons de travailler avec... tout le monde travaille pas pareil, ouais. Et ça aussi, c'est bien, parce qu'en fait, des fois... même si on est avec des sons de quelqu'un d'autre, de fichiers envoyés, parce que la plupart du temps, c'est jamais en live, en fait, c'est toujours des fichiers qui sont envoyés. On a toujours l'impression, même si on, quelque part, on remixe, on rejoue, on réinterprète, on découpe, on triture les morceaux des uns des autres, finalement, on reste un petit peu dans ce que l'on sait faire. Et là, avec des échanges, les morceaux évoluent tout le temps. Et du coup, c'est assez rigolo de voir comment la première mouture et par rapport à la dernière mouture, ce que c'est devenu, en fait. Et donc, du coup, ça permet de voir différemment ce que je fais et en tous les cas d'oublier ce que je fais vraiment, puisque on est au service d'une autre entité, en fait. Hein,
tout à fait. Part. Mais après, donc, du coup, le travail, c'est variable. J'allais te demander justement, mais tu as répondu si tu travaillais vite ou moins vite, mais après, tout dépend effectivement des artistes et de ce que vous voulez faire.
Oui, voilà, il y a des fois ça va vite, des fois ça va pas vite. Oui, après, moi, des fois, j'arrive à aller assez vite parce que j'attends, il y a des temps de. Où je suis plus lent parce qu'en fait, j'ai pas le temps de le faire à cause du boulot, de la fatigue. Et puis, il y a des fois, j'ai l'impression, sur un week-end, je peux faire plusieurs morceaux parce qu'en fait, ça a maturé, en fait. C'est devenu, je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai trouvé une espèce de, je pense qu'instinctivement il y a quelque chose qui s'est mis en place dans ma tête et face aux machines, en fait, ça se met en place et ça peut aller assez vite, quoi. Donc c'est variable, en effet, ce temps de travail, ce temps de gestation est variable.
Yeah.
Est-ce que tu as fait appel à des labels ou des labels sont venus à toi pour justement produire certains de tes albums? Alors, je sais qu'il y a des labels biélorusses, labels qui est français, plus basé sur le Mans. Donc, par exemple, voilà, comment ça s'est passé, ces collaborations, enfin, cette venue sur ces labels?
Alors, c'est variable. En fait, il y a des fois, il y a des labels qui m'ont demandé de produire quelque chose. Hein, si je prends... le label de Yann Trollen, qui est moléculaire, comment c'est déjà ?
Musique moléculaire.
Musique moléculaire, ouais, pardon. Yann m'avait envoyé un mail ou un message, en tous les cas, pour dire qu'il était intéressé de présenter quelque chose. Là, je vais sortir quelque chose avec Mike Benoit, qui est canadien. On a fait des morceaux ensemble, j'ai participé à des compilations qu'il organise. Il m'a demandé si je pouvais. Il a créé un nouveau label. Récemment, donc il m'a demandé si je pouvais lui envoyer quelque chose. Et après, des fois, j'ai fait des démarches ou c'est des rencontres par qui sont liées aux personnes, enfin, qui on m'a conseillé, va voir. Alors, celui qui va le plus conseiller, c'est Sébastien Seb Lapin, là, de IRM, là, le webzine sur internet.
Oui, Indie Mag. Oui, j'ai vu ça avec le Benjamin.
Voilà, c'est IRM Mag. Ouais.
L'autofagus record peut-être aussi des,
ouais,
des
voilà,
collaborations.
Il y a Benjamin. Voilà, et donc du coup, avec lui, c'est quelqu'un qui m'a soutenu quasiment dès le début, là, dans les années 2010-2012. Il avait écouté, j'avais sorti des choses avec... Le premier morceau que j'ai sorti, c'était Petroglyph, un label danois. Et après, un autre label qui a disparu maintenant... mais c'est des contacts que j'avais eu comme, enfin, voilà, en fait, en discutant, en collaborant, hop, on m'a conseillé, donc j'ai écrit. Sébastien m'avait beaucoup conseillé de labels au tout début, donc il y a des noms que j'ai gardés, j'ai envoyé des démos, et puis après, de fil en aiguille, il y a des choses qui sont créées par des rencontres, par Facebook, en fait, il y a des gens qui suivent votre travail, vous regardez un petit peu, puis après vous écoutez ce qu'ils ont sur leur label, par exemple, Ivo Petrov, le de Mallorca, c'est lié à Julien et Michel, avec qui j'ai fait deux musiciens, avec qui j'ai fait des morceaux au tout début, dans les années 2014, et eux sortaient déjà des disques avec lui, ils m'ont dit, tu devrais voir avec Ivo, et puis du coup, avec Ivo, c'est resté, quoi. En fait, il a sorti régulièrement des morceaux, c'est quelqu'un qui suit mon travail depuis quasiment le début, en fait, et de temps en temps, je lui envoie quelque chose, en sachant que maintenant, Mallorca, il sort énormément de choses, donc c'est compliqué de sortir tout de suite quelque chose, il faut être très patient, mais voilà, il y a eu des rencontres au départ comme ça, soit parce que je trouvais, soit on est venu me demander. Et puis après, j'ai conservé ces liens-là parce qu'en fait, ça s'est construit. Il y a un parcours commun qui s'est construit, en fait. Et puis, un partage de centres d'intérêt plus ou moins nommés, en fait, qui sont là, en fait.
Et justement, est-ce qu'on t'impose des contraintes ou pas du tout, comme c'est spontané, on prend ton travail tel qu'il est, ou vraiment on te dit des fois il faudrait plutôt faire ceci ou faire cela? Est-ce qu'il y a des contraintes des fois qui te sont imposées sur certains labels où tu es?
Globalement, non, c'est assez ouvert, en fait. Les propositions de morceaux, d'albums, d'EP ou de pochettes sont proposées. Parfois, certains labels ont des contraintes sur des pochettes, par exemple. C'est le cas chez l'Autofagus. Ben, il sort une image brute, il n'y a pas de nom, etc. dessus. Ça, c'est léger. Il y a juste, si j'ai travaillé main dans la main avec Daniel Quackert, c'est Unfathomless. Donc, c'était l'album étant donné, en fait. Et là, c'est un label belge, en fait, qui est dans le field recording assez. Avec une très très marquée, en fait, mais avec une lignée graphique déjà plutôt chouette. Donc il y a des images très gérées, très travaillées par Daniel. Et puis après, l'album, j'ai dû mettre un an et demi, voire 2 ans quasiment à le faire, parce qu'en fait, il écoutait régulièrement les maquettes et il cherche un son particulier, en fait. Et du coup, il y a une négociation. Donc c'est aussi intéressant de travailler comme ça. Ça change un petit peu la façon, ça nous fera. Du coup, ça fait réfléchir, en fait. Daniel veut des albums qui sont pas complètement bruts, mais avec le moins d'effets possible à l'intérieur. Pas de filtre, pas trop de reverb, etc. Alors que moi, c'est des choses que j'utilise beaucoup. Et j'avais fait ça aussi, l'expérience avec Stéphane Marin, pour une compilation par rapport à ce qui s'appelait les réveils les matins en France, je crois. Et du coup, on avait échangé quasiment pendant 3-4 mois, 5-6 mois, je ne sais plus, sur la fabrication d'un morceau. Et il suivait, comme Daniel, il suivait la confection du morceau en disant, bah là, ça ne va pas, cette partie-là, ça ne me convient pas, est-ce que tu peux évoluer ? Donc moi, j'ai joué le jeu parce que ça m'intéressait de pousser un petit peu au bout et puis d'avoir cette conversation-là avec des personnes très spécialisées, avec une écoute particulière que je n'avais pas forcément sur ce que je faisais, quoi. Donc oui, des fois ça arrive, mais globalement dans ce que j'ai fait, non, c'est pas la majorité, mais j'accepte ces contraintes-là parce que ça me permet de réfléchir, ou en tous les cas d'essayer d'agir différemment par rapport à la masse sonore que je gère ou que je transforme, en fait.
D'accord, oui, après c'est en fonction des affinités. On va aussi parler un petit peu de ta discographie, donc comme je disais tout à l'heure, qui est assez prolifique. On va prendre peut-être tes dernières sorties, donc par exemple Hors Sol, donc c'est déjà c'est assez... je dirais pas assez rigolo, je ne sais pas si c'est le terme, mais l'orthographe, en fait, tous les morceaux s'appellent Hors Sol, mais on va dire que les majuscules ne sont pas forcément placées au même endroit. Des fois, il y a des espaces aussi qui n'y sont pas. Justement, pourquoi cette idée de faire comme ça cet album ?
Alors, le titre en soi a une signification par rapport à la façon dont sont fabriqués les morceaux. Puis après, il y a un paquet d'images. En fait, à chaque morceau, il y a des images qui correspondent. Et l'idée après, c'est que là, depuis un certain temps, alors je discute avec un monsieur qui s'appelle Michel Lagneau, qui a été documentariste sonore et qui a été assez proche de Pierre Schaeffer. Là, je discute avec lui depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Et en fait, on a eu des discussions. Enfin, dans les discussions est arrivée la question du titre, en fait. Et moi, je trouve que c'est compliqué en fait de donner des titres aux morceaux et aux albums. Et en peinture, ça s'est présenté aussi dans ma peinture depuis pas mal d'années maintenant. En fait, je nomme mes peintures très simplement. Hein, c'est peinture hiver 2025, printemps 2025, été 2025. Et parfois, il y a un mot qui apparaît et il va être en sous-titre en fait de ça. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à nommer toutes mes peintures. Donc du coup, j'ai fait comme Pierre Soulages, en fait. Soulages faisait pareil, il donnait la date, en fait, où la peinture devait être finie, plus les dimensions, et ça faisait partie du titre. Et du coup, avec les morceaux, au fil de ces discussions, de cette réflexion avec Michel Lagneau, à un moment donné, je me suis dit, parce qu'en fait, j'aime bien les titres, un peu les mots valises, les titres machin, mais ça part qu'à moi, en fait. Où il y a des jeux de mots, que des astuces, il n'y a que moi qui les trouve, ou alors à moi de communiquer énormément... et de faire des textes qui expliquent pourquoi les mots s'écrit comme ci, comme ça. C'est un peu compliqué, ça casse l'effet de surprise. Parfois, j'ai essayé de faire des choses que je croyais poétiques, mais qui ne le sont pas du tout. Donc du coup, là, par exemple, pour Hors Sol, je me suis dit, l'idée du disque, en fait, c'est d'utiliser des sons de plusieurs lieux, pardon. Ça a été enregistré dans des endroits différents, à des moments différents, et donc du coup, je vais fabriquer... par strates différents morceaux qui finalement seront hors sol parce qu'ils ne correspondent pas à un lieu en particulier. Parce qu'il y a ça dans le feed recording aussi comme intention. En fait, c'est un moment qui est enregistré. C'est un peu, parfois, c'est une archive, un document d'un lieu en particulier. Et moi, là, je n'avais pas envie de faire ça. Puis dans ma patrie, je n'ai pas envie de faire ça, en fait, même si beaucoup sont marqués par l'endroit où je vis. Je ne revendique pas cette idée d'archivage, en fait. Et du coup, en faisant hors sol, je me suis dit, c'est l'idée de... Ça va être l'idée de ce disque-là, je vais prendre des sons de toutes les époques que j'ai pu faire, que j'arrive pas à utiliser, plus des récents, je vais tout mixer. Et je vais appeler ça Hors Sol. Et du coup, je me suis dit, chaque morceau va s'appeler comme ça, et donc je vais varier le titre en jouant sur les lettres, sur le fait que ce soit minuscule en majuscule, et que ça reste dans l'esprit Hors Sol quand on lit le morceau, enfin quand on lit la chose, c'est toujours écrit Hors Sol, en fait. C'est un peu cette idée-là, en fait, pour essayer d'éviter d'avoir trop de titres différents qui dénaturent peut-être l'intention que j'avais. L'intention que j'avais au départ, en fait, par rapport à cette idée d'album, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a un autre, j'ai appelé impression ou vision, et c'est décliné à chaque fois, où c'est le mot impression. Pour impression, c'est le mot qui est divisé, en fait, en tant de morceaux, de toute façon. Donc, c'est juste des lettres, en fait, parfois, ou juste une syllabe, parce que je j'arrive pas à trouver des titres qui permettent. C'est un peu un dilemme en ce moment, là, depuis 6-7 mois, un an. J'arrive pas toujours à trouver les titres qu'il faudrait pour tous les morceaux, donc je préfère essayer de conserver une unité, en fait, avec le mot, un seul mot, en fait, quelque part, ou une expression.
Oui, ça fait une orthographe subtile pour des morceaux avec des subtilités qui peuvent être différentes les uns des autres aussi. Ça peut être peut-être vu comme ça.
Oui, ça peut être vu comme ça, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent se ressembler dans les morceaux, parfois ils sont proches, mais oui, c'est un petit peu ça, c'est jouer sur de légères variations en fait. Oui, un petit peu ça. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans ma peinture. En fait, dans ma peinture, je travaille en série. Et du coup, y a pas une, c'est rare quand c'est une peinture toute seule. C'est, en général, elle se décline sous plusieurs aspects. Parfois, c'est des polyptiques. Il y a plein de formats qui se ressemblent. Et du coup, la différence, elle est dans l'infime, dans le détail. En fait, il y a une légère variation. Et peut-être qu'il y a cette idée-là aussi dans ces titres-là, ou parfois même dans ces morceaux, ou dans les morceaux, en fait. Oui.
Thank you.
tout à l'heure, on parlait de collaboration avec Antonella Esport. Portsuledzi, l'album Éléphant, donc c'est pareil, est-ce qu'il y a une histoire derrière cet album justement avec cette collaboration avec Antonella?
Oui, là il y a une histoire, oui. En fait, David Lynch est mort là en début d'année, je ne sais plus si c'est février ou mars, et donc du coup il y a eu plein de choses sur les réseaux sociaux, plein de choses diffusées à droite à gauche, donc je me suis replongé dans surtout dans l'univers sonore de Lynch. Enfin, c'est un cinéma que j'aime beaucoup depuis très longtemps pour plein de raisons, mais même avant que je fasse de la musique, quand j'étais étudiant, quand je regardais, déjà le son m'attirait chez lui, il y avait quelque chose que j'appréciais particulièrement, et du coup à un moment donné on a discuté avec Antonella aussi. Il y a eu 2-3 compilations auxquelles j'ai participé pour un hommage, en fait. Et puis Antonella me dit, ben non, là, j'avais mis quelque chose sur ma page de Facebook. Et Antonella dit, ben là, je ne peux pas participer parce que je ne peux pas travailler avec ce label pour X ou Y raison. Et donc, du coup, on a continué à discuter. Elle me dit, mais si tu veux, on peut faire quelque chose ensemble pour rendre hommage à Lynch. Je lui dis, OK, il n'y a pas de problème. Et en fait, quelques temps après, 2-3 mois, on en a reparlé. Et Antonella avait écrit un texte et... proposé avec sa voix un texte autour de l'Elephant Man, en fait, et donc elle m'a confié ça et j'ai construit les fonds sonores, entre guillemets, j'ai construit l'ambiance et on a produit ça, et puis assez, très vite Antonella voulait qu'on sorte, donc on l'a sorti assez rapidement, mais voilà, c'est, l'histoire vient de là, c'est quand même, ouais, c'est, Antonella est fascinée par ce film-là. Et donc, du coup, elle a travaillé autour de ça, elle a réagi autour de ça, elle a construit quelque chose avec sa voix, et puis elle m'a confié les bandes, et puis j'ai essayé de créer une atmosphère assez particulière, qui n'est pas forcément directement évocatrice du film, ou des souvenirs que je peux en avoir, mais qui est plutôt évocatrice du travail de Lynch, tel qu'à un moment donné, je pouvais le percevoir. Après, ça peut varier. Aujourd'hui, ça varierait peut-être, parce que je n'aurais pas forcément en tête Elephant Man, quoi, en fait. Mais du coup, oui, il y avait une commande un peu particulière, une envie particulière. Mais,
Oui, un très beau film, d'ailleurs, Elephant Man. Après, il y a plein de morceaux. Donc, tu parlais tout à l'heure d'impression vision. Donc là, c'est sur différents labels que tu as pu produire ces albums. Il y a aussi Terre Sonore. Donc, ça reprend vraiment une thématique spécifique. Le fait que justement, tu nommes cet album Terre Sonore.
Terre Sonore. Oui. En fait, c'est il y a beaucoup de choses qui sont, oui, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un sens dans ma tête. Comment dire ça, en arrière-plan dans ma peinture, il y a, et puis dans ma pratique sonore, en fait, il y a l'idée sur ma page, Bandcamp, j'ai marqué expérimental soundscape. Donc il y a quelque chose qui est lié au paysage sonore. Alors, c'est pas forcément, pas du tout au sens où l'entend Murray Schafer, mais c'est l'idée de reconstruire un paysage, et plutôt mental. Ma peinture est abstraite, mais il y a un an ou deux, là, j'ai fait des choses où on arrive à deviner des figures un peu plus présentes, des arbres, des feuillages, etc., qui sont liés vraiment à ce que j'ai fait sur le terrain autour de la maison quand j'ai emménagé dans cette maison. Et donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que la notion, l'idée en tous les cas d'un paysage mental, de quelque chose de cet endroit-là, est présente en fait. Et donc Terre Sonore, ça se rattache à ça en fait. C'est-à-dire que j'ai fait pareil, il y a la pochette, on voit un sol photographié avec de l'eau près de la mer. Et à chaque morceau, il y a une image qui correspond, qui est de l'ordre du paysage, en fait, on va dire pour simple. Ce ne sont pas des illustrations, parce qu'en fait, les photos n'ont pas été faites en même temps que les sons. Et c'est dans un lieu où j'habite, où je vais en vacances chez mes parents, à la mer, donc c'est un paysage marin, ça n'a pas du tout à voir avec le paysage que j'ai là. Mais voilà, j'aime bien associer cette idée-là, et dans mon imaginaire, que ce soit en peinture ou en son, il y a cette idée d'un paysage. Mais alors, pas un paysage réaliste, pas un paysage... ancré vraiment dans une réalité. En fait, c'est quelque chose que je réinvente, que je réimagine à partir soit de la peinture, soit de son, en fait. Et c'est pour ça que je l'appelais Terre Sonore. Et ça fait écho aussi à... je dois avoir une bande-son que j'avais faite pour une installation. À ce moment-là, je peignais des peintures noires avec du torchis à l'intérieur. Donc, une grosse épaisseur. Il y avait une dimension un petit peu... comme si c'était des images d'une planète d'une planète en fait. Et du coup, j'avais fait une bande son où je parlais de ça en fait, du rapport à un paysage un peu sombre, un peu terne, un peu mortifère en fait. Et du coup, j'avais appelé ça déjà Terre sonore. Et donc du coup, j'ai repris cette idée-là. Ça s'est croisé dans mon esprit et je trouvais que c'était intéressant. D'essayer d'évoquer indirectement, non pas le paysage, parce que le paysage envoie un visuel, une image figurative tout de suite, tout le monde a quelque chose en tête, alors que Terre sonore, ça reste un peu plus vague. En fait. Et pour moi, c'est ça un peu cette idée d'essayer de travailler, de proposer quelque chose qui soit de l'ordre du paysage mental, imaginaire, et puis que ce soit immersif par le son en fait.
Je suis un être humain, une femme. 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 Je suis un être humain, une femme.
Où est-ce qu'on peut trouver tous ces albums ? Donc, il y a bien sûr Bandcamp, aussi sur, oui. Sur d'autres labels dont tu parlais tout à l'heure.
Alors, le Bandcamp que j'ai, alors, j'en ai deux. J'en ai un principal où il y a les albums, tous ceux que j'ai pu sortir, soit à mon nom, mais il y en a très peu à mon nom propre tout seul. Et la plupart du temps, sur d'autres labels. Et donc, du coup, les références. Et dans cette organisation-là, parfois, il n'y a qu'un morceau, en fait, parce que je mets le lien du label qui l'a sorti, en fait. Donc après, j'ai sorti des choses chez, comment ça s'appelle, Emerge, c'est un label allemand, où j'ai fait des collaborations avec Laurent Jacques-Henfring et Hans Kastrup. J'ai sorti des choses chez IRM. Après, je ne sais plus trop, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Aussi, pendant longtemps, j'ai collaboré et travaillé avec Joseph Ba, sur un label grec au tout début. C'est lui qui m'a... Alors lui, c'est pareil, je crois qu'il est venu me chercher. J'ai sorti un premier album qui s'appelle Invocation avec lui. Et on a collaboré assez longtemps avec Joseph, on discutait beaucoup. Maintenant, ça s'appelle Etchet Tromas. Et c'est un label que défendait sur IRM Seb, en fait. Donc du coup, voilà, il y a des collections qui sont faites comme ça. Et Joseph était venu me chercher. Et j'en ai sorti 4-5 avec lui, dont une collaboration avec lui directement. Donc après, c'est... j'ai pas mal bossé. J'ai bossé aussi avec Format Noise de Dirk Degger, quelqu'un qui fait de la musique plutôt techno. Je ne sais plus où j'en suis là.
Non, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de labels, beaucoup de sorties. Donc après, c'est vrai que tu as eu beaucoup de collaborations. Donc même chronologiquement en parlant, c'est peut-être pas forcément évident de se souvenir de tout.
Non. Et puis, pour moi, c'est pas grave, c'est comme mes peintures, en fait. Je ne suis pas toutes les peintures que j'ai faites, donc c'est pareil, j'ai un site où j'archive beaucoup, où je mets tout année par année. Et du coup, des fois, j'arrive plus à savoir, en regardant une peinture, même en la voyant quand je l'ai rangée dans l'atelier, parce que ça m'arrive de déplacer les peintures à droite à gauche pour avoir plus de place, j'arrive plus à me souvenir de quelle époque j'ai fait, donc je regarde ce que c'est d'où. Enfin, c'est d'où, ouais. Mais oui, c'est un peu compliqué, en fait. Et puis, une fois que c'est classé, en fait. Je sais que je peux le retrouver. Donc, du coup, dans ma mémoire, c'est moins présent, parce que je sais que je l'ai rangé à un endroit. Et du coup, je peux passer à autre chose, en fait, réfléchir, penser à autre chose, faire autre chose, en fait. C'est assez curieux, peut-être, comme façon de faire, mais c'est mon mode de fonctionnement, parce que je le vois en peinture. Les peintures vivent avec moi... 6 mois, 1 an dans la maison, et puis après, certaines, pas toutes, parce que ça rentre pas, j'ai passé le grand mur, et après, je les range. Et du coup, j'en fais d'autres. Comme ça, les disques, c'est pareil, en fait, les albums, c'est pareil, les morceaux, c'est pareil. Une fois que je les ai assemblés, que je les ai mis dans un ensemble qui va s'appeler album ou EP, après, c'est publié, après, je les oublie, en fait. Et j'ai du mal à avoir bien la chronologie en tête, à part certains qui m'ont marqué parce que l'image, parce que l'intensité dans le fait de le faire, ou parce que ça accomplit quelque chose dans la rencontre avec les personnes, si c'est une collaboration, ou avec le label, c'est lié à un événement particulier. Donc du coup, ça peut marquer comme ça, mais après, c'est des traits de mémoire normaux, on va dire. Mais après, ouais, j'ai du mal parfois à me repérer dans tout ce que j'ai fait. Ouais.
Mais de toute façon, après, ton travail...
Non, c'est sûr.
Mais après, ton travail, on peut le retrouver peut-être sur le net, donc déjà peut-être par le biais de tes réseaux sociaux, qui répertorient peut-être ton travail. Dans certains cas, tu parlais d'un site aussi où tu as tes toiles. On peut te retrouver du coup sur Internet.
Oui, on peut. Oui, bien sûr. Oui. Alors, par exemple, sur ma page Facebook, je suis sur Instagram... J'ai un lien qui s'appelle Linktree qui permet de résumer. J'ai mis des grandes catégories qui permettent de retrouver facilement. Le site de mes peintures, c'est sur Blogspot. C'est une multitude de blogs en fait qui sont enchevêtrés pour faire une sorte de site, parce que j'ai essayé de distinguer les pratiques, les expositions et diverses choses. J'ai un SoundCloud. Et donc du coup, on arrive à tout retrouver. J'ai un deuxième Bandcamp où je montre, j'édite en fait tous les morceaux que je fais sur